Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Manifestation des gilets jaunes à Paris, Lyon et Toulouse notamment. La plupart des rassemblements sont interdits. 2 ans après le début du mouvement, la crise sanitaire et économique n'a fait qu'exacerber les raisons de la colère, explique le sociologue Luc Rouban du CEVIPOF. Les enfants français victimes de traitements inhumains dans les camps syriens doivent être rapatriés. 76 parlementaires signent une lettre au président de la République. Aux États-Unis, 20 000 pompiers combattent des incendies gigantesques de la frontière avec le Canada à celle avec le Mexique. Reportage en Californie, dans une forêt devenue un paysage apocalyptique. Ouverture ce matin de pourparlers de paix entre autorités afghanes et talibans. Négociation après 19 ans de guerre, mais le gouvernement appelle à un cessez-le-feu. Le chef des talibans au retour de la charia. Les gilets jaunes, le retour, et avec eux, des rassemblements interdits, comme à Paris, sur les Champs-Élysées notamment, à Lyon, à Toulouse aussi. Dans la capitale, 68 personnes ont déjà été interpellées ce matin, 17 verbalisées, 27 placées en garde à vue. Elles étaient en possession d'armes par destination, type tournevis, pince coupante. L'un des leaders du mouvement, Jérôme Rodriguez, avait appelé sur les réseaux sociaux à une désobéissance civile complète. Les autorités s'attendent à ce que 4 à 5 000 personnes se rassemblent, dont 1 000 000 pourraient être des casseurs. Mais il y a ceux aussi qui s'apprêtent à manifester dans le parcours autorisé par la préfecture qui partira d'ici peu de la place Wagram à Paris, où vous vous trouvez, Julie Pietri. Et Julie, vous y avez rencontré des victimes de la crise sanitaire.
Des manifestants dont la situation a souvent été aggravée par la crise du coronavirus. Jérôme Rodriguez, l'un des visages des Gilets jaunes, le dit d'ailleurs sans détour.
Paradoxalement, le Covid, c'est notre meilleur allié. Il n'a fait que mettre en avant tout ce qu'on peut dénoncer aujourd'hui en France.
Parce qu'il a révélé encore plus la précarité d'une partie de la population et estime-t-il la défaillance de l'État.
Mais je peux plus, je suis obligé de bouffer des pâtes à fin du mois, du jambon, et j'en ai marre le cul de ce président de merde.
Michael, chauffeur routier, 1 500 € par mois, 2 ans de mobilisation.
Il faudrait plus de monde dans les quartiers, dans les rues, à gueuler, pour qu'au moins qu'ils comprennent qu'on a, les gens en ont marre de souffrir comme ça à la fin du mois.
Ici, les gilets jaunes ne portent en fait plus ou presque de gilets jaunes. L'habit a été en grande partie délaissé.
La couleur jaune est tellement bannie. On ne veut plus voir de jaunes à Paris. On ne veut plus. Donc maintenant, on vient normal. Comme ça, on est des citoyens en colère. Mais on est gilets jaunes.
Quand on vient avec en fait, un signe jaune,
on se fait verbaliser,
on se fait maltraiter aussi.
Sabine, ex-ouvrière chez Renault, qui ne parvient pas à retrouver du travail, manifeste aujourd'hui avec Nathalie, qui nettoie et sert à manger dans une cantine scolaire du nord de la France.
Avec la crise, tout ça, et le Covid terminé, on a trop de mal à retrouver du travail. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien pour nous.
On paye toujours aussi d'autant de taxes, mais à un moment donné, on n'arrivera plus à se nourrir. Ça devient invivable, on n'y arrive plus.
Au mouvement d'aujourd'hui se sont greffés des petits patrons de discothèques dont les établissements restent fermés et des chauffeurs de VTC qui expliquent que leur travail avec la raréfaction de la clientèle est devenu encore plus compliqué.
Merci Julie Pietri avec Arthur Gerbeau à la technique. Et quelques manifestations de gilets jaunes se sont aussi déroulées ce matin à Grenoble, Antibes ou encore Nîmes. Alors pourquoi 2 ans après le lancement du mouvement, les gilets jaunes perdurent? La crise sanitaire et économique n'a fait que renforcer le malaise exprimé dès l'automne 2018, explique Luc Rouban, il est sociologue au CEVIPOF, le centre de recherche sur la vie politique française à Sciences Po Paris.
C'est un mouvement qui continue d'exprimer quand même un malaise démocratique profond de la société française. Je dirais un malaise qui s'appuie à la fois sur évidemment la contestation des élites, sur les inégalités. Un malaise démocratique qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la perception de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement en France. C'est-à-dire, dans le fond, on s'est aperçu quand on faisait des enquêtes que en France, on était toujours dans cette perspective d'une crise de confiance, d'un malaise général, et que dans le fond, alors qu'en Royaume-Uni, en Allemagne, l'exécutif bénéficiait des mesures prises pour contrer l'épidémie, et ce n'était pas le cas en France. Et tout cela s'exprimait à travers une forme de défiance à l'égard des institutions, et donc les gilets jaunes continuent d'exprimer ce malaise. Donc si vous voulez, le moteur qui est à l'origine des gilets jaunes est toujours présent.
Luc Rouban du Cevipof, interrogé par Pierre Neveu. Près de 200 enfants de djihadistes français, dont deux tiers ont moins de 6 ans, sont actuellement détenus dans des camps kurdes. Ils sont des victimes que la France ne peut abandonner, écrivent des parlementaires dans une lettre adressée au président de la République. Lettre signée par 76 parlementaires, de LR au Parti communiste, sénateurs, députés à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Ces élus estiment que Paris laisse pourrir la situation. Jennifer de Temmerman est députée ex-LREM et elle fait partie des signataires.
Nous, ce que nous demandons, c'est un rapatriement massif de ces enfants et de ces mères. Les mères doivent être jugées en France et puis les enfants doivent être mis à l'abri, ramenés aussi dans leur famille parce qu'ils ont des familles. En France, il y a des grands-parents qui se battent pour récupérer leurs petits-enfants, les mettre en sécurité, leur permettre d'avoir une vie normale parce que ce n'est pas une vie normale qu'ont ces enfants qu'ici. La question des enfants de djihadistes, on l'a déjà évoqué à plusieurs sujets. Ça fait trop longtemps que cette situation dure et qu'on se voile la face sur ce qui se passe là-bas dans ces camps et sur la réalité des terribles que doivent affronter ces enfants, parce que ce ne sont que des enfants qui ne sont pas responsables des choix de leurs parents. Les morts se multiplient dans des conditions absolument indignes. On parle d'enfants, on parle d'une situation qui ne devrait pas exister. On a tous cette même sensibilité à cette cause qui est capitale. Il y a encore des dizaines d'enfants qui sont morts là cet été et ça ne peut pas continuer. La première pierre de la reconstruction de notre humanité, c'est aussi s'occuper de nos enfants. Ce sont des causes, quoi. Mon fils a 4 ans, je ne conçois pas qu'il puisse grandir dans des conditions pareilles.
La députée Jennifer de Temmerman, jointe par Adrien Palluet. Hier, alors que les États-Unis commémoraient les attentats du 11 septembre et qu'en région parisienne se tient le procès des attentats de janvier 2015, Al-Qaïda a renouvelé ses menaces envers Charlie Hebdo. Le journal satirique avait choisi de remettre à la une au début du mois les caricatures de Mahomet. Un éditorial de RIS réaffirmait aussi que jamais Charlie ne se coucherait. La tuerie du 7 janvier n'était pas un incident ponctuel, affirme l'organisation terroriste. Au moins 1,5 million de personnes ont déjà fui les flammes qui ravagent l'Ouest américain. Plus d'une centaine de feux ont été recensés dans l'Oregon, l'État de Washington, à la frontière avec le Canada et en Californie. 20 000 pompiers sont engagés dans cette course contre la montre pour sauver des flammes, ce qui peut encore l'être, dans le nord de la Californie, dans le comté de Butte. C'est trop tard pour la forêt de Berry Creek, dans laquelle s'est rendu l'un des correspondants de Radio France aux États-Unis, Benjamin Hilly.
Les pompiers filent à toute vitesse sur cette route quasiment déserte. Le soleil est rouge. Devant lui, cet écran de fumée, une fumée épaisse, chargée de cendres. Elle bouche l'horizon, un décor apocalyptique. Il y a les voitures calcinées, les maisons réduites en miettes, parfois les arbres brûlent encore. Et à perte de vue, la forêt de Berry Creek, noire, ravagée. Jack Thomas est à la tête d'une équipe de 60 pompiers déployés dans cette zone. Le secteur n'est pas sûr pour le moment à cause des lignes électriques par terre, les arbres qui pourraient tomber et nous avons encore des feux actifs qui se propagent sur la colline. Le feu n'est pas du tout contenu. Notre priorité est de protéger les maisons du mieux qu'on peut, mais le feu a été destructeur dans ce secteur. Je suis tellement désolé pour ces gens qui vivent ici, qui ont acheté des terrains, qui ont construit leur maison ici. Je sais ce qu'ils ressentent.
Ok, take care.
Et l'incendie de Berry Creek, malgré son ampleur, ne représente finalement que la partie ouest d'un feu gigantesque baptisé North Complex Fire, qui a déjà dévasté plus de 100 000 hectares de forêt.
Et ce week-end, la météo devrait offrir un peu de répit aux pompiers. Ce matin, à Doha, au Qatar, des négociations historiques ont commencé entre les autorités afghanes et les talibans, et ce, après 19 ans de guerre. Pour parler en présence du secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, ces discussions interviennent au lendemain, donc de la commémoration de l'anniversaire des attentats du 11 septembre, des attaques à la suite desquelles les troupes américaines avaient chassé les talibans du pouvoir en Afghanistan. Et ce matin, tout le monde faisait semblant de croire à la paix, Nathalie Charbonnier.
On trouve autour de la table les Américains, les Qataris, les Talibans et enfin les Afghans du pouvoir en place. Et si tous parlent de paix possible, il n'est pas certain que cette bonne humeur historique dure longtemps tellement les positions sont éloignées entre d'un côté les Talibans et de l'autre le gouvernement au pouvoir. Les Talibans tout d'abord arrive à la table des négociations avec un objectif, celui de voir la charia faire son grand retour en Afghanistan. Leurs négociateurs parlent de système islamique. De l'autre côté, les partisans de l'actuel président afghan souhaitent eux garder la nouvelle constitution du pays et faire que l'Afghanistan reste une république respectueuse de nombreux droits, notamment pour les minorités religieuses, mais aussi pour les femmes qui pourraient être les grandes perdantes du retour des talibans au pouvoir. Deux visions du monde et des calendriers différents. Si les Américains souhaitent aller vite, c'est-à-dire trouver un accord avant les élections de novembre prochain, d'autres semblent moins pressés d'aboutir. L'actuel gouvernement afghan lui aimerait prendre tout son temps avant de parvenir à une solution, car plus les négociations durent, plus cela lui permet de rester au pouvoir. Les talibans, enfin, ces derniers savent que de toute façon, ce sont eux les grands vainqueurs de cette interminable guerre.
Les explications de Nathanaël Charbonnier. Le palmarès de la Mostra de Venise dévoilé ce soir. 18 films sont en compétition pour le prestigieux Lion d'Or. France Culture, il est 12h40.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et Marie Viennot nous amène aux États-Unis. Le programme de soutien aux PME y est entaché de nombreuses fraudes et abus.
Quoi en commun, Kanye West, le rappeur qu'on entend, et Jeff Koons, le plasticien, à part leur richesse personnelle? Eh bien, tous deux ont reçu plus $1 million via un plan d'aide aux PME lancé par le gouvernement pour contrer les effets de la pandémie. Avec eux, sur la liste des bénéficiaires qui a été publiée par l'administration américaine, 400 country clubs et golf, 600 sociétés financières, dont des hedge funds, Soho House, un club réservé aux ultra-riches. Que des milliardaires fassent appel à l'État pour leurs entreprises de vêtements, d'art, de finance, qu'ils auraient pu peut-être aider eux-mêmes, c'est choquant, mais légal est la partie la moins grave de cette histoire. Cette aide, d'abord, disons-le, ils y ont droit. Elle est destinée aux entreprises de moins de 500 salariés qui déclarent sur leur bonne foi en avoir besoin pour faire face aux difficultés économiques et garder leurs employés. Car c'est le but de cette aide, éviter les licenciements. Comme chez nous avec le chômage partiel, sauf qu'aux États-Unis, cet argent public transite par les banques. C'est d'abord un prêt qui peut devenir une subvention ensuite. On peut s'étonner de ce choix dans un pays où les banques s'illustrent régulièrement par leur manque de probité, mais le secrétaire au Trésor l'a justifié ainsi. Passer par les banques, c'était le moyen le plus rapide de faire parvenir l'argent aux entreprises proches de la faillite. Mais qu'ont fait les banques? Ont-elles ciblé les entreprises les plus en difficulté, noires et hispaniques notamment, pour les inciter à faire appel à ce programme? Bien sûr que non. Elles en ont fait un business, commission à la clé pour leurs bons clients. Ont-elles vérifié que tel candidat au prêt avait bien des emplois à sauvegarder et combien, que sa petite entreprise existait même réellement? Visiblement, pas toujours. La plus grande banque américaine, JP Morgan, reconnaît d'ailleurs cette semaine avoir repéré des agissements potentiellement délictueux parmi ses clients et ses employés, mais les cas d'abus font surface depuis cet été. En août, un Texan qui avait utilisé son prêt pour s'acheter une Rolex, une Lamborghini, un pick-up et des biens immobiliers a été arrêté. Une anecdote parmi d'autres, car le plus inquiétant est ailleurs. D'abord, la liste transmise par l'administration chargée des PME est incomplète. Elle ne concerne que 14% des bénéficiaires des prêts. Tous ceux qui sont en dessous de $150 000 passent sous les radars. À quelques semaines des élections présidentielles, c'est bien fâcheux. Ensuite, cette liste est truffée d'erreurs. Plus de 800 000 demandeurs n'ont déclaré aucun employé. Le Washington Post a constaté que le nombre d'emplois dits à sauver est parfois 3 fois supérieur au nombre d'employés total du secteur dans le pays. Le journal cite aussi une église texane qui a rempli une demande pour 500 salariés alors qu'elle n'en a que 12, etc., etc. La gestion de cette aide aux PME, c'est une histoire d'horreur à venir, titre un éditorialiste du Washington Post, mais le président américain Donald Trump n'a qu'une chose à dire à ce sujet. Grâce à notre plan d'aide, nous avons sauvé 50 millions d'emplois américains. Un chiffre aussi faux que les erreurs du fichier publié par son administration. Pour le moment, ces prêts ne sont pas encore des subventions. L'entreprise doit le demander et faire la preuve du maintien de l'emploi. Sauf qu'aucun contrôle systématique n'est prévu au-dessous de $2 millions de prêts, ce qui exclut 99% des cas, s'inquiète la commission bipartisane chargée au Congrès de suivre la crise du coronavirus. Autant dire, par ici, l'argent est gratuit. Merci le contribuable et merci la pandémie.
La bulle économique de Marie Vienno. La météo de ce samedi après-midi avec un grand ciel bleu partout, excepté sur la pointe du Cotentin et sur les Flandres. Il fera 19 à Brest, 23 à Nantes et Paris, 27 à Besançon et Grenoble et 31 à Perpignan.